On est dans la troisième veille et je ne vais pas faire d'introduction générale parce que justement ça part un peu dans des sens différents. La leçon de Philippe sur le courage aurait mieux eu sa place dans la première veille, celle de Thalès par exemple dans la seconde. Enfin bon, on aurait pu changer les places, mais voilà, c'est comme ça. Et donc là, on va beaucoup parler du soin, on va continuer sur le soin, mais aussi sur le mutuel, sur le cohabiter, sur le mélange, sur l'hospitalité mutuelle. Et on est dans le monde. Notre question, c'est la question du monde, et c'est habiter le monde. Moi, je vais faire un développement sur qu'est-ce que c'est qu'habiter le monde dans un monde dévasté, j'ai mis comme titre. Qu'est-ce que c'est qu'habiter, qu'est-ce que c'est que cohabiter. Et donc, je vais parler un petit peu quand même justement de la situation du monde aujourd'hui, dans la guerre économique totale qui est en train de se déclencher encore plus brutalement que jamais. Et on reviendra de là sur comment est-ce qu'on peut, nous, vivre et quelle est la place du soin dans ce monde-là. Donc, je dis un monde dévasté. J'ai été de ces dernières années, chaque année, au Kivu, donc vous voyez, dans l'est de la République démocratique du Congo, et où la situation est absolument épouvantable, parce que c'est en même temps le pillage des métaux nécessaires à la transition écologique, et donc en même temps des métaux nécessaires à la survie, et et donc on est dans cette guerre économique. Il me semble que justement, un des grands problèmes du monde économique dans lequel nous sommes, c'est ce qui fait son irrationalité, c'est l'incapacité à tenir compte de tout ce qui ne se vend pas, de tout ce qui n'est pas solvable. On a parlé avec Philippe Soal tout à l'heure du prix de la vérité. Est-ce qu'il y en a qui peuvent se battre, cogner sur les autres, mais aussi vendre la vérité, acheter et vendre la vérité. Socrate dit non, la vérité ne se vend pas, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur. Il y a des choses qui n'ont pas de valeur. Qu'est-ce que c'est que si on réduit tout au solvable, à ce qui se vend, à ce qui pourrait se vendre? Non, il y a des choses qui ne se vendent pas. Ensuite, il y a le fait que le développement technique dégage du temps libre, mais du temps libre, comme disait Anna Arendt, on délivre des gens qui étaient des travailleurs, et donc on ne fait que, en quelque sorte, que rester sur cette unidimensionnalité d'un monde économique qui est production-consommation. Et donc, on exploite le travail, on exploite aussi le consommateur, l'envie, le besoin, etc. Et puis, en même temps, avec tout cela, ce qui se développe, c'est des moyens de puissance barbares entre les humains. Je me souviens d'une très magnifique maxime du philosophe Jean-François Lyotard, qui disait, en fait, le mot d'ordre dans le monde d'aujourd'hui, c'est « soyez commensurable ou disparaissez », ou « soyez comparable ». Soyez au même niveau ou bien disparaissez. Et donc, oui, il y a une sorte de rapport de force. Et en fait, peut-être que les choses sont en train d'être réduites à des purs rapports de force, de comparaison de force. En plus, tout cela, ça se fait sur un fond de guerre à la nature. C'était Hegel qui disait que l'économie, c'est l'état de guerre contre la nature. Et cet état de guerre, il ne connaît pas la paix depuis longtemps, et donc la nature est exploitée sans mesure. Et puis, en gros, tout ce que nous produisons, Günther Anders, un philosophe allemand, qui disait tout ce que nous produisons doit être détruit. Donc quelque part, plus nous produisons et plus nous préparons des grandes destructions. Donc il y a une sorte de logique d'accumulation vouée à la destruction. Voilà quelques éléments de ce que j'appelais le monde dévasté, dans le titre que j'ai donné à cette petite leçon. Et alors, face à ça, donc, nous avons une puissance inédite, puissance technique, puissance économique, puissance militaire, bon. Et comme disait Paul Ricoeur, à puissance inédite, responsabilité inédite. Plus on est puissant, et plus on devrait être responsable. Alors, on est responsable du vulnérable, et on doit d'autant plus avoir une morale qu'on a de la puissance. Si vous voulez, les colombes qui ont peu d'armes sont paisibles, mais elles n'ont pas besoin de beaucoup de morale pour être paisibles. Tandis que le corbeau ou que l'aigle, les animaux qui sont puissamment équipés, eh bien, ils ont besoin de morale. Ils ont une morale d'ailleurs, ils ont des codes beaucoup plus, beaucoup plus solide, beaucoup plus rigoureux que les animaux plus inoffensifs. Et d'une certaine manière, l'humanité se retrouve dans la posture d'une colombe, parce que nos instruments de guerre sont assez faibles, nos dents sont petites à côté des tigres, et nos griffes sont petites à côté de celles des ours. Bon. Eh bien, on est comme une colombe à laquelle on aurait mis un bec de corbeau ou d'animal très dangereux. Vous voyez, bon. On a des instruments que nous n'avons pas une morale à la hauteur de nos instruments. Et donc, les conséquences de notre puissance échappent à nos intentions et aussi éloignées que ce soit dans l'espace ou dans le temps des générations futures. Nous avons du mal à assumer cette responsabilité. Alors, moi, je voudrais répondre à ça en replaçant au cœur de l'œikos, le monde comme œikos, c'est le mot grec qui veut dire maison, justement, non pas le travail, non pas la production, non pas les échanges, la multiplication des échanges, ou de la consommation, mais l'habiter, la capacité à habiter. Hein, et le fait que nous n'habitons pas tout seuls, justement, de manière séparée, nous habitons parce que toujours déjà nous cohabitons avec d'autres, pour d'autres, par d'autres, qui étaient là avant nous. Donc nos habitats sont des cohabitats, forcément. Des cohabitats avec d'autres humains, des cohabitats aussi avec d'autres vivants, avec d'autres formes de vie. Et donc le sens de l'économie, ce n'est pas la croissance indéfinie et quantitative des échanges, c'est la pluralité, c'est éventuellement s'il y a une augmentation, c'est l'augmentation dans la... Et le respect de la pluralité des formes de vie, la diversité des formes de vie, revenir ensemble en quelque sorte dans ce monde pour nous retrouver dans cette situation d'hospitalité mutuelle. L'intérêt du mot hôte, c'est que l'hôte en français, c'est un mot équivoque qui veut dire en même temps celui qui est reçu et celui qui reçoit. Et justement, l'hospitalité dit les deux côtés. Il faut penser l'hospitalité des deux côtés, ça me semble très, très important. Alors, si je voulais recommencer autrement à partir de cette idée qu'au cœur de l'économie, qui est elle-même dans l'écologie, il y a l'habité, et le monde habité, eh bien, le monde nous est donné à habiter, à interpréter, avant de l'échanger, avant de le produire. Enfin, il y a quelque chose qui est déjà là. Et donc, l'habiter, c'est vraiment la condition transcendantale de l'économie. Il faut un habitat, il faut un chez-soi pour pouvoir rencontrer un autre, pour pouvoir aller chez quelqu'un d'autre. Je me rappelle une fille africaine que je ne connaissais pas, mais qui s'était levée à la fin d'une conférence de Paul Ricoeur sur l'hospitalité. Elle avait dit, mais où est-ce que vous êtes chez vous? Nous, on n'a trouvé personne qui était chez soi, alors du coup, on est resté chez nous. Oui, bon, c'est ça l'hospitalité. Il faut avoir un chez-soi. Pour rentrer dans les échanges, il faut qu'il y ait quelque chose qui échappe à l'échange. Pour rentrer et sortir des échanges, si le monde économique c'est un monde d'échanges, il faut bien avoir un habitat. C'est pour ça que l'habiter, le logement, est vraiment quelque chose de premier. Hein, bon. Et nous sommes des sujets parlants, habitants. Et l'important, c'est justement d'augmenter la densité en style et en forme de vie, en compossibilité de forme de vie. Dans nos cohabitats. J'essaie de raccourcir un peu pour gagner du temps. Je dirais que les cités humaines, les sociétés humaines, ce qu'elles veulent, ce qu'elles offrent, c'est un théâtre assez équivoque pour pouvoir entretenir, j'aime bien le mot entretenir, hein, bon, c'est un très beau mot, entretenir la diversité des interprétations. On peut l'interpréter comme ça et comme ça. Il y a plusieurs manières d'interpréter nos rues, d'interpréter nos places, d'interpréter nos espaces. Et donc, il y a un dissensus éventuellement sur la manière d'utiliser l'espace. Qu'est-ce que nous faisons de la place du Capitole? C'est une question politique, c'est une question urbaine, c'est une question stylistique, c'est une question artistique, c'est une question... Comment est-ce que nous nous mêlons dans les espaces communs? Qu'est-ce que nous en faisons? Comment est-ce que nous les interprétons de manière diverse, mais ensemble? Et puis, non seulement ça, mais assez durable aussi, cet espace... ces espaces des cités humaines, pour être réinterprétés de génération en génération. On les réinterprète, on en invente d'autres, des nouveaux usages. Et ça me semble très important. Je pense que d'une certaine manière, les endroits dans l'histoire et dans la géographie de toutes les humanités, en général, les endroits heureux, sont les endroits qui ont réussi à organiser ce théâtre, je dirais, ce théâtre de mutualité, ce théâtre d'hospitalité mutuelle, dans lequel il y a de l'écoute, dans lequel, tout à l'heure, Philippe nous parlait beaucoup de la Grèce antique, avec tous ces gens, tous ces grands noms contemporains, une bourgade de 40 000 habitants, Athènes. Comment est-ce que c'était possible? C'était possible pas parce qu'ils étaient meilleurs que nous, c'est simplement parce qu'ils croyaient en eux-mêmes. Ils avaient confiance que là où ils étaient, c'était génial. Et que ce que disait l'autre, c'était génial. Et que, mais ils n'étaient pas d'accord. Vous voyez, bon, c'est cette bienveillance mutuelle, mais cette qualité d'écoute mutuelle qui fait, je dirais, le fait qu'on peut réellement cohabiter. Et j'insiste beaucoup sur le fait que habiter et cohabiter, ça se fait d'abord, c'est pas que des histoires d'espace dans un sens matériel. C'est d'abord des formes de vie et des manières de parler. C'est d'abord des manières de dire, etc. Et c'est là qu'il y a de l'hospitalité. Et c'est par la parole, et notamment par les paroles des poètes, que nous habitons le monde. Voilà quelques mots sur ce thème.